en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
À l'occasion du 150e anniversaire d'un des plus grands sociologues français, Émile Durkheim, l'Académie des sciences morales et politiques a tenu un colloque à l'Institut de France les 4 et 5 novembre 2008. Écoutez ici le sociologue Bernard Vallade. Il présente Friedrich Ratzel, qui fut un grand géographe allemand, dont il résume les principales idées et qui fut l'un des fondateurs d'une nouvelle géographie, une géopolitique. Et il compare Ratzel en sa discipline, qui fut tout aussi fondateur que Durkheim dans la sienne, la sociologie.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, chers amis, vous me permettrez tout d'abord de dire ma gratitude à M. Raymond Boudan de m'avoir invité à participer à ce colloque. Et aussi, vous me permettrez de le citer d'entrée, parce que j'ai repris le texte qu'il avait donné au volume d'hommage à une grande géographe, Madame Alice Saunier-Seyté, texte qui est consacré au rapport de l'histoire-sociologie avec un trait d'union, avec l'histoire-géographie, avec la sociologie. Et dans ce texte, qui prend les choses avec la hauteur qui est coutumière à Raymond Boudan et avec des exemples qui nous sont devenus familiers, dans ce texte, il est question des incompréhensions entre les champions de ces disciplines. C'est une de ces incompréhensions, entre guillemets, parce que peut-être ne faut-il pas forcer le trait, que je voudrais évoquer à partir des relations que Durkheim a entretenues avec Ratzel. C'est-à-dire rapports qui ont été noués entre une discipline qui se veut coordinatrice et une autre, classique, établie, tenu pour science spéciale. Mon propos s'ordonne en deux points. Je voudrais, dans un premier temps, résumer les principales idées du géographe allemand et, dans un deuxième moment, vous dire ce qu'en a retenu Durkheim et, pour conclure, sur les biais qui ont été en grande partie introduits par cette lecture. Ratzel, je me permets de le résumer d'un mot, est un des fondateurs d'une géographie politique, d'une nouvelle géographie, fondateur à l'image de Durkheim. Alors, sans doute, ni Karl Ritter, ni Humboldt ne sont à assimiler à un compte par rapport à qui distance aurait été prise. Ce n'est pas cela. Mais si Ritter et Humboldt passent pour effectivement avoir mis en mouvement une discipline qui était regardée comme statique, c'est Ratzel qui a donné une orientation décisive à cette science. Il faut rappeler que l'intéressé, qui en une soixantaine d'années, il naît en 1844, il meurt en 1904, Ratzel a une formation acquise du côté des sciences exactes. Il a fait des études de zoologie, de biologie, et aussi et même surtout de pharmacie. La rencontre décisive pour lui est celle de l'œuvre de Darwin, donc le texte de 59, qui, j'ouvre une parenthèse, n'a eu aucune influence sur les deux auteurs que je viens de citer, les deux grands, Ritter et Humboldt, puisque, par un singulier hasard d'ailleurs, ces deux géographes meurent l'année même de la parution de l'origine des espèces. Le champ d'observation de Ratzel, c'est-à-dire comment sa pensée s'est-elle formée, son champ d'observation, c'est les États-Unis. Il est correspondant de presse en Amérique en 1973 et il peut observer, n'est-ce pas, l'évolution de la frontière, le déplacement d'un tracé et examiner comment se fait l'occupation de l'espace. L'autre domaine qui est de prédilection pour lui est la Chine. En 1876, trois ans après son séjour américain, Il étudie les migrations chinoises et la manière dont la colonisation intérieure de la Chine s'est faite par l'agriculture et le commerce, et non pas par la guerre, ce qui suffit d'ailleurs très largement à démontrer les perspectives pacifiques, les objectifs pacifiques du géographe en question. Alors, il y a sans doute polémique autour de cette œuvre, parce que nul n'oubliera qu'en 1890, il contribue à la mise en place de la Ligue pan-germaniste, et l'on sait qu'il apparaît comme un théoricien de l'espace vital, et on a vu donc dans son œuvre la matrice des idées les plus malsaines, pour ne pas dire les plus morbides. Mais ceci me semble assez secondaire, même très secondaire, car ce n'est pas inscrit comme tel dans l'œuvre qu'il a réalisée. Sur ce géographe, en tout cas, les travaux français n'abondent pas. L'on a traduit les concepts fondamentaux de la géographie politique en 1987, avec une belle introduction de Michel Corinman. La plus récente référence à cette œuvre, je l'ai trouvée dans la revue d'histoire du CNRS, dont je m'occupe par ailleurs, et qui est dû à Yves Lacoste. Le dernier numéro est consacré à la géographie et s'ouvre par un renvoi à l'œuvre de Ratzel. Les œuvres les plus célèbres, bon, il y en a deux, trois peut-être, ces œuvres, je les présente très rapidement pour voir exactement ce que Durkheim a pu retenir et pour déceler la manière dont le grand maître de la sociologie française utilise les sources, et pas nécessairement en restituant pleinement les courants. En 1882 paraît l'Anthropogéographie, qui s'ouvre sur une rétrospective, Montesquieu, Voltaire, Buffon, pour la France, Herder, Ritter, bien entendu, et retour en France avec Taine. Belle idée développée dans cette étude sur le mixage. Je l'indique tout de suite parce que je ne reviendrai pas là-dessus. C'est une idée que n'a absolument pas relevée Durkheim, qui pourtant a donné un contenu substantiel de l'œuvre. Pour Ratzel, tout peuple contemporain est le produit d'un mixage de fragments de peuples, et les peuples non mixés, nous dit-il, sont immobiles. Il meurt d'immobilisme et il prend comme exemple l'Égypte ancienne, tandis que la plupart des mixages sont salutaires et il fait grand cas notamment de celui des Indiens et des trappeurs européens au Canada. Tout l'ouvrage est construit sur l'importance du facteur sol. On ne peut penser l'État ni la société sans sol. Et il dénonce au passage l'erreur des sociologues qui prennent l'homme comme détaché de la terre. La famille est considérée par l'auteur comme la première cellule et territoire de chasse et aussi terroir mis en culture. Chronologiquement, le deuxième ouvrage, qui serait important si on avait à nous attarder sur et en détail sur l'œuvre de cet auteur, c'est l'ethnologie. Et on a affaire avec Ratzel un personnage qui est à la fois géographe, historien, ethnologue, et son ouvrage d'ethnologie, deux volumes qui paraît en 1885-1888, insiste sur la cohésion de l'humanité et vise l'unité finale du genre humain. Distinction reprise de Ritter, les peuples proches de la nature, d'autres qui sont voués à la culture étant définie comme affranchissement des contraintes naturelles, mais aussi comme instaurant avec la nature des relations plus diversifiées. Immense culture de Ratzel, qui disserte sur les thèses de Barofon, de Morgan, de Marx et d'Engel, bien entendu, à propos de la famille, et qui s'engage dans des comparaisons très, 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 très érudites sur les cultivateurs, les pasteurs, les pêcheurs, les tailles des différents états. J'ai repéré une notation très intéressante pour la pêche. Il nous dit que les peuples de pêcheurs, eh bien, ont une aptitude tout particulière pour la direction politique. En effet, leurs membres, je cite, dirigent des esquifes rudimentaires. De même que la conduite de l'État consiste à le gouvernement donc a pour tâche de diriger les individus comme une flottille de petites embarcations. Le grand ouvrage de Ratzel est bien entendu La géographie politique, ouvrage qui paraît en 1897, qui est composé de 9 parties. La première a trait au rapport qu'entretiennent le sol et l'État. Et les définitions qui nous sont données sont oubliées de Durkheim. L'État est défini comme organisme lié au sol. La perspective ouverte est une perspective biogéographique, expression qu'on ne retrouve jamais sous la plume de Durkheim. Un peuple est une parcelle de l'humanité liée à un sol déterminé. C'est une citation qui a été dévoyée par Durkheim dans les comptes rendus dont je vais parler dans un instant. C'est cité incorrectement. Le peuple est défini comme rassemblement humain, politiquement soudé, formé de groupes qui ne sont pas nécessairement apparentés ethniquement et linguistiquement, mais qui sont ancrés dans un sol commun. Ici, il faudrait faire des comparaisons, bien sûr, introduire des comparaisons avec les conceptions développées par Renan dans le fameux texte du 11 mars 1882, la grande conférence « Qu'est-ce qu'une nation ?». C'est dans la géographie politique que Ratzel introduit les notions d'espace, de situation. L'espace, nous dit-il, fait le peuple. L'espace fait le peuple et l'État, c'est la combinaison d'un peuple et d'un sol. L'État conduit une politique qui peut être soit territoriale, alors visant à son expansion et la rentabilisation du sol, mais la politique appelée à être conduite peut être dite non territoriale, c'est-à-dire ce sont des pratiques commerciales qui sont alors mises en œuvre. Le sol est également donné à voir comme enjeu de conflits sociaux en raison de son illégale répartition. Suivent des considérations très piquantes sur les puissances sans sol et sur les peuples sans sol. La deuxième partie est consacrée au mouvement historique et à la croissance de l'État. Dans cette partie, il est question de la guerre, des différents types de guerre. L'histoire est définie comme ensemble des mouvements obéissant à des lois, car ça va de soi, et ce qui séduira bien évidemment Durkheim, c'est le côté nomothétique des analyses de Ratzel. Dans le même chapitre, on trouve également de bonnes analyses des phénomènes de colonisation. La croissance spatiale des États est examiné dans une troisième partie, avec une étude des facteurs d'ordre religieux et aussi un examen de la dynamique des idées nationales. Les trois autres parties sont fondamentales. Quatrième, la situation des États, avec notamment le rapport centre-périphérie. L'espace et le sens de l'espace, Raumsinn. Les frontières. Et enfin, les trois dernières parties de son ouvrage, Les côtes et les îles, La mer et la thalassocratie, pardon, et enfin, Plaines et montagnes. Il y a un ouvrage aussi qui pourrait être rappelé, parce qu'il est très important dans la carrière de l'auteur et dans la postérité de son œuvre, c'est La terre et la vie, qui est publié en 1901. Deux volumes, le premier étant consacré à la Terre, et le second à une biogéographie, à l'organisation des sociétés. C'est là que se trouve introduit notamment la notion d'espace vital. Alors la rencontre de Durkheim et de Ratzel, je la trouve dans l'année sociologique, évidemment. Année sociologique, je rappelle, qui est méditée en 1896 et dont le premier numéro paraît en février 98, la datation des volumes étant en quelque sorte rétroactive. Le premier volume paraît en 98, février, je le rappelle, mais il est daté 1896-1897. La première série, ce qu'on appelle la première série d'années sociologiques, que j'ai toujours plaisir à feuilleter chez moi, cette première série comprend 12 volumes. Et la première livraison comporte différentes sections, avec des sous-rubriques. La sixième section, c'est pas très original, a pour titre « Divers ». Divers, et l'on y trouve une recension de Durkheim, j'y reviens dans un instant, sur l'État et son sol, mais on trouve également dans cette rubrique un compte-rendu d'un travail de Mindeleff et surtout des commentaires sur la vie des peuples rédigés par Emmanuel de Martonne. C'est dans la seconde livraison de l'AS que l'on trouve l'introduction de la morphologie sociale. Donc la sixième section reçoit un nom, avec des sous-rubriques. Et la sous-rubrique qui nous intéresse ici est morphologie générale. C'est ainsi qu'elle est baptisée dans la seconde livraison. Et l'on trouve dans le second numéro de l'année une recension de la géographie politique de Ratzel, très substantielle, je vais le dire dans un instant, en même temps que des analyses de la même œuvre par Vidal de Lablache. Et je le dis tout de suite, non, sans aucune malveillance, mais l'analyse que j'ai retrouvée, bien entendu, de Vidal de Lablache est extrêmement différente de ce qu'en donne à voir Durkheim, qui aiguise la critique, accentue les coups, marque une réfutation là où il y a généralement approbation, je le dirai dans ma conclusion. Dans le même numéro, l'on trouve des textes de Ratzel sur l'origine des migrations, l'origine et les migrations des peuples, qui font l'objet de commentaires du même Durkheim. Dans le troisième numéro, c'est l'anthropogéographie qui fait l'objet d'un compte-rendu du même auteur, du fondateur de la revue, et cette fois-ci sous une autre sous-rubrique. La rubrique générale ne change pas d'intitulé, morphologie sociale. C'est la sous-rubrique qui, ici, devient migration humaine. Ensuite, on aura les bases géographiques des sociétés, puis la vie sociale et sa base géographique. Le dernier intitulé de cette sous-rubrique deviendra, à partir de 1904-1905, base géographique de la vie sociale. Au pluriel, naturellement, base géographique de la vie sociale. Alors, je vous fais grâce de la suite de ces comptes rendus, disant que l'attention de Durkheim est extrêmement soutenue, érudition colossale, commentaire toujours plein de sagacité, il est à l'affût de tout ce qui paraît, et il donne ainsi, dans le numéro 4 de l'année, un très beau compte-rendu de la mer comme source de la grandeur des peuples, qui est un grand texte de Ratzel. La quasi-totalité des comptes rendus du géographe allemand sont de la plume de Durkheim. On trouve aussi bien des recensions des ouvrages de Martonne, il y revient en 1900-1901, dans la cinquième livraison, que des ouvrages de Domolin sur les grandes routes des peuples. Je m'arrêterai juste un instant sur le huitième volume de l'année sociologique, 1903-1904, où paraît une recension du tableau de géographie de la France de Paul Vidal de Lablache. Le compte-rendu n'est pas dû à la plume de Durkheim, mais celle d'Antoine Vacher, géographe fort célèbre à l'époque, qui est un géographe durkheimien, et c'est un compte-rendu sans grand relief. L'année sociologique numéro 11, 1906-1909, ce regroupement d'années, comporte une étude de Maurice Alvax, consacrée à l'espace et au temps en géographie et en géologie, Alvax, dissertant d'une manière très très subtile sur les lois spatiales de l'histoire. Dans la même livraison, on trouve des comptes rendus dus à François Simien, des ouvrages d'Albert de Mangeon, de Raoul Blanchard, d'Antoine Vacher et de Jules Sion. La dernière livraison qui paraît du vivant de Durkheim, l'année sociologique 12, 1909-1912, comporte à côté d'une présentation d'un ouvrage d'une érudite anglaise sur les bases du système anthropologique de Ratzel, comporte, dis-je, un compte-rendu méchant, je le dirai tout à l'heure, de Jean Brune, c'est-à-dire du livre de Jean Brune sur la géographie humaine, essai de classification positive, dont la première édition était de 1908, la seconde de 1912. Compte rendu de Durkheim, substantiel, mais négatif, comme je le dirais. Alors, que retient et quelles sont les objections de Durkheim ? Durkheim donne une première recension, donc dans la première livraison, de l'ouvrage « L'État et son sol », étudié géographiquement. Et Durkheim salue le géographe allemand de faire passer sa discipline d'une étude descriptive à une science explicative. De mettre l'accent sur le rôle du facteur géographique dans l'organisation et le développement des sociétés. Deux sortes de liens sociaux ont leur source dans le territoire, des liens physiques, nous dit-il. Le territoire rapproche matériellement, mais il existe aussi des liens moraux. Le sol instaure une communauté d'existence. Et Durkheim se plaît à répéter, à reproduire le jugement de Ratzel, la société n'est pas pensable sans une référence au sol. Toute communauté humaine aspire à une assise et à une délimitation territoriale. La base de l'État, c'est le sol. Le sol est le moteur du progrès. C'est ce qui contribue à former la conscience de chaque peuple. Avec marche à l'unification, processus d'accroissement, tendance à l'expansion. Il brode sur une série d'oppositions, provinces périphériques, régions centrales, bandes côtières, intérieur des terres, plaines et montagnes, évidemment. Et il indique que l'extension de l'espace social détermine le renforcement du rapport société-territoire. Alors, on en vient à des critiques qui sont assez sévères et sérieuses. Les idées du géographe allemand manquent de détermination. Ses principes sont des plus contestables. Alors, certes, on trouve chez lui, dans son œuvre, un rappel utile, une injonction, d'ailleurs même, qui est faite aux sociologues, de tenir compte des facteurs territoriaux, trop souvent négligés. Et qui serait susceptible, nous dit-il, Durkheim, d'affecter directement certaines représentations collectives. Par exemple, poursuit-il, la manière dont les peuples se représentent l'univers n'est peut-être pas sans rapport avec la nature de leur habitat. Mais, ultime critique, ce n'est pas du sol en tant que tel que les sociétés deviennent ainsi solidaires. Ce n'est pas par ses caractères physiques qu'il détermine ce plus grand attachement. Il y a incorporation du travail et, par là même, production d'un phénomène social. Donc la société ne devient chère que dans la mesure où se trouve incorporée. Un territoire ne devient objet d'attachement qu'à partir du moment où du travail est incorporé dans le sol. C'est donc dans le second numéro de l'année sociologique que l'on trouve une note sur la morphologie sociale et l'idée que la vie sociale repose sur un substrat qui est déterminé dans sa grandeur comme dans sa forme. Donc cette note de Durkheim est très importante. Durkheim expose comment les unités à prendre en compte sont les masses des individus, comment les questions examinées intéressent la disposition sur le sol de ces individus, comment il faut dessiner et redessiner ce qu'il appelle la configuration des choses. Tout ceci ressortissant à une même science que Durkheim propose d'appeler morphologie sociale. Donc Durkheim se veut ici créateur d'une nouvelle science, la morphologie sociale, pour laquelle il va créer, si je puis dire, pour les travaux qui seront issus de cette science, une rubrique sera créée qui portera ce même intitulé. Donc la géographie, qui étudie la forme territoriale des États, l'histoire, qui retrace l'évolution des groupes, la démographie, qui porte sur la distribution de la population, enquête sur les mêmes phénomènes, il faut intégrer tout cela dans une nouvelle science. Au passage, et dans cette note, Durkheim relève qu'une synthèse analogue, je le cite intégralement, est tentée par une école de géographie sous le nom de géographie politique. Mais cette expression porte à confusion, prête à confusion. Il ne s'agit en effet pour Durkheim, il s'agit d'étudier non les formes du sol, mais les formes qu'affectent les sociétés, en s'établissant sur le sol. Le mot géographie donne trop d'importance. Il ne dit pas le mot, mais c'est le relief qu'il vise. Le mot géographie donne trop d'importance au relief. Il parle des traits physiques dans la constitution du substrat social. Alors on en vient à la suite de cela à la présentation de la géographie politique de Ratzel, et il est précisé d'entrée que pour le géographe allemand, entre les individus, il n'y a pas d'autre lien permanent que celui qui les attache au sol commun, tandis que pour lui, Durkheim, je le cite, les consciences particulières sont directement attachées les unes aux autres par des liens qui n'ont aucune origine territoriale et qui pourtant sont tout à fait primordiaux. Ratzel veut donc pour lui étudier l'État dans ses rapports avec le sol, mais Durkheim objecte cruellement en quoi ces rapports consistent-ils. C'est une objection qui me paraît superflue parce que toute l'œuvre de Ratzel, l'œuvre en question, consiste à expliciter ces rapports. Durkheim en retient un double processus. L'État joue un rôle important au départ dans la mainmise sur un territoire et dans son accroissement, extension. Un territoire qui sera limité par lui. Et la deuxième phase, c'est une phase de consolidation avec enracinement et c'est une phase proprement sociale. Donc le premier agent, c'est l'État. Le second, c'est la société. L'État contribuant, après coup, à renforcer l'enracinement. Trois chapitres sont particulièrement retenus par Durkheim, même essentiellement retenus, de l'ouvrage que j'ai présenté à l'instant, Die Lage, donc la situation, puis l'espace, et enfin les frontières. La situation apparaît très importante à Durkheim, parce que l'espace en dépend. Et il revient sur les situations qui peuvent être centrales ou périphériques, sur l'importance des mers, et, remarque-t-il, c'est sur le bord des mers que se fondent les premiers États. Pour l'espace, il pointe bien l'ambition spatiale des États modernes, et donc un mouvement qui conduit de la périphérie vers le centre, vers l'intérieur des terres. Cet intérieur des terres prend une importance nouvelle. La grandeur du territoire, écrit-il, agit sur l'esprit d'une nation. Chaque peuple a un certain sens de l'espace. Les vastes espaces sont propices à l'élargissement de la conception de l'univers. L'horizon, écrit-il, recule à mesure que le territoire s'étend. Et pour lui, le privilège des génies et de dépasser la conception de l'espace qu'ont en partage les contemporains. Enfin, pour les frontières, Durkheim voit bien que ce n'est pas une ligne, mais une zone, qu'il y a des mouvements contradictoires, d'expansion, de résistance et ensuite de retrait. La frontière, nous dit-il, est en perpétuelle mobilité, c'est une zone où s'effectuent soit des replis, ou bien s'opèrent des échanges. Alors, longue dissertation sur les frontières naturelles et les frontières politiques. Et on en vient à la conception générale de l'ouvrage, qui fait l'objet de ce jugement émis par Durkheim. Ratzel, nous dit-il, aspire à trouver des lois. En ce sens, il se rapproche de la sociologie. La sociologie doit sortir des généralités pour entrer en contact avec les sciences spéciales, les fameuses sciences spéciales, que sont aussi bien l'économie politique, qui sortira de l'enfance lorsqu'elle se rapprochera de la sociologie, que l'histoire, et bien sûr la géographie. Inversement, les sciences spéciales tendent à prendre une forme sociologique. Monsieur Ratzel, géographe éminent, ne refuserait pas, sans doute, la qualification de sociologue. Donc la géographie politique, pour Durkheim, est une branche de la morphologie sociale, un autre nom de cette science qu'il aspire à fonder, puisque la morphologie sociale traite des formes territoriales des sociétés. Mais, hélas, l'auteur de la géographie politique mélange les formes et les effets. Ces conceptions sont vagues. Tantôt, Ratzel traiterait des sociétés telles qu'elles se fixent sur le sol, tantôt des dispositions matérielles du sol dans leurs conséquences qu'elles ont sur le développement politique des peuples. De toute manière, prévient Durkheim, la causalité ultime n'est jamais physique. Les causes sont toujours sociales et partant, elles sont d'ordre moral. Les faits de géographie physique ne sont qu'une des causes qui contribuent à produire les phénomènes étudiés. Sans doute, Ratzel, chemin faisant, invoque des causes qui n'ont pas de caractère géographique, mais le point de vue qui le domine consiste à voir dans le sol la base de toute vie collective, le lien qui unit les hommes. Les mêmes réserves sont exprimées dans la troisième livraison de l'année à propos de la présentation de l'anthropogéographie, donc la deuxième édition, qui est de 1899, et c'est de cette réédition que rencontre Durkheim. On retrouve toujours la distinction entre observation, description et explication, explication notamment des répartitions et la formulation de lois qui règlent les mouvements, avec de manière ultime la mise au jour des effets suscités par le milieu physique. Donc comment les forces agissent-elles? Comment les lois s'appliquent-elles? Et c'est au mouvement migratoire que s'applique singulièrement Durkheim, qui entreprend de les classer, conscient, inconscient, migration par masse ou par petits groupes, migration active ou passive, s'agit-il d'infiltration ou d'invasion? Ceci est très bien développé et repris intégralement de Ratzel. Même chose pour ce qui concerne les pasteurs, les chasseurs, les agriculteurs, avec une critique au passage de la notion d'autochtonie. Les autochtones, ça n'existe pas, nous dit-il. Il n'y a pas de peuple qui soit vraiment autochtone. L'autochtonie est un mot à rayer de la terminologie scientifique et avec lui d'autres termes qui encombrent le vocabulaire géographique. Nous fait-il comprendre. Alors, on retrouve les mêmes réserves. Ratzel tire la géographie de l'isolement et la rapproche de la sociologie, très bien, mais sa méthode est aussi indéterminée que son objet. Et l'on voit ici, n'est-ce pas, des objections qui sont exactement les mêmes que celles qui sont formulées à l'encontre de Zimol. Ce sont des vues ingénieuses, dit-il, des vues intéressantes. Ce sont des points de vue, des suites de considérations, je cite tout cela, qui éveillent la réflexion. Donc on est plus du côté du curieux que du studieux. On est plus dans le rhapsodique que dans l'architectonique. Plus, n'est-ce pas, dans des intérêts qui sont successifs que dans une systématicité. Les conditions géographiques, poursuit Durkheim, variant d'un lieu à l'autre, eh bien, leur influence est toujours restreinte. Et elle semble tendre à s'affaiblir de plus en plus. Et il donne comme exemple les croyances religieuses et les vérités scientifiques. Les premières dont les solidités inférieures portent l'empreinte de l'ensemble du sol sur lequel elles se développent, tandis que les vérités de la science sont indépendantes de toute situation locale. Ce n'est donc plus, conclut-il, la Terre qui explique l'homme, mais l'homme qui explique la Terre, et si le facteur géographique reste important à connaître pour la sociologie, ce n'est pas qu'il éclaire la sociologie de lumière nouvelle, c'est qu'il ne peut être compris que par elle. Je voudrais dire donc, en m'abstenant de vous présenter le troisième texte dans le numéro 12 de l'année et qui porte sur la géographie humaine, je veux dire un petit mot quand même, qui porte sur le texte de Jean Brune, mais c'est lié à ma conclusion. Durkheim donc, entreprend de fonder une morphologie sociale et il utilise Ratzel, à coup sûr, parce que ce dernier se propose de formuler des lois, mais simultanément, conjointement, pourrais-je dire, il annule une partie des efforts faits par les géographes français, et singulièrement Jean Brune. Vous savez que dans ce livre merveilleux, qui porte l'empreinte d'ailleurs des relations qu'il entretenait, qui étaient très étroites avec Vidal de la Blache, Brune expose qu'il y a six faits essentiels dans la géographie humaine, la maison et les chemins, fait d'occupation du sol, les champs et les cheptels, c'est l'économie productive, et les mines et les forêts, économie destructive. Alors voilà ce qu'écrit Durkheim. Ce sont des divisions abstraites. On traite des œuvres matérielles des hommes, mais non des hommes eux-mêmes. On ne traite pas des masses et des races, et il oppose systématiquement, et dans ce texte même, les orientations tracées par Ratzel et les conceptions développées par Brune. Alors, je dirais que qu'il y a là un biais, car relisant un certain nombre de textes consacrés à l'histoire de la sociologie, à l'histoire des Durkheimiens, à l'histoire du durkheimisme, je vois très souvent que Vidal de la Blache est, comme on dit stupidement, convoqué et agrégé au petit troupeau qui a si bien labouré le territoire des sciences sociales. Mais ça me paraît devoir être corrigé. Vidal de la Blache, qui naît en 1845-1800 et qui meurt en 1918, bon, et qui crée en 1891 les Annales de géographie, eh bien, se réclame toujours de Ritter et de Humboldt. Il s'appuie sur les sciences naturelles, il s'appuie sur la géologie, sur l'écologie, et l'écologie, comme vous le savez, est un terme qui a été forgé par Haeckel, le disciple allemand de Darwin. Et il vise, Vidal de la Blache, à créer, à maintenir, sinon à créer, à consolider la géographie comme discipline autonome. Et ceci en dépassant l'opposition nature-histoire, en ralliant les points de vue de Ritter, qui prenait la terre comme productrice de valeurs et de culture, de valeurs culturelles. Donc il faut concilier déterminisme et contingence. Et c'est Vidal de la Blache et Brune qui créent la géographie humaine. Alors, je pense que le biais a été introduit par Lucien Febvre dans « La Terre et l'évolution humaine », ouvrage de 1922. Febvre interprète la pensée vidalienne et il l'interprète incorrectement. Il oppose une école allemande de géographie et une école française, ce qui est incorrect. L'école allemande serait déterministe, l'école française possibiliste, je le cite, et je pense que lui échappe complètement l'épistémologie vidalienne, qui s'inspire étroitement, et de l'aveu même de Vidal, qui s'inspire de Ratzel. Dans les principes de géographie humaine, l'ouvrage posthume, 1922, recueil d'articles, de textes divers, ce que vise Vidal de la Blache, c'est une science des milieux. Une science des milieux localisée. Et ceci en évitant toute prétention nomothétique propre à la morphologie sociale. Donc Vidal de la Blache dit précisément s'écarter de la morphologie sociale. Et Vidal de la Blache établit ainsi l'analogie entre une écologie d'inspiration néo-lamarckienne et la géographie humaine. Il situe la géographie humaine dans la biogéographie générale qui a été conceptualisée par Ratzel. Donc je pense que en ce domaine, il y a un certain nombre de positions qui ont été occupées par Durkheim, un certain nombre d'idées qui ont été lancées par lui, et notamment l'idée d'une morphologie sociale, mais ça se trouve accompagné de différents biais, et c'est une tranche de l'histoire des idées qu'il faudrait réécrire en se soutenant des travaux classiques, par exemple ceux de Paul Claval, sur l'histoire de la pensée géographique. Merci, Monsieur le Président.